Nous avons le plaisir d'être avec Laurent Chauderge, membre du comité d'investissement chez BDL Capital Management, pour cette première rubrique de l'émission En Portefeuille. Bonjour Laurent.
Bonjour Nicolas.
Merci d'être avec nous. Alors, effectivement, donc la rubrique En Portefeuille, merci d'être avec nous. Il y a eu plusieurs actualités qui ont animé les marchés depuis hier soir. À noter qu'aujourd'hui SpaceX entre dans le Nasdaq 100, que Nasdaq a fait évoluer ses règles d'entrée dans un indice donc boursier pour SpaceX. C'est la première actualité. Ça va créer un certain nombre de flux, notamment en matière d'ETF, donc les sociétés, les grands gestionnaires d'ETF qui vont être obligés d'acheter des actions SpaceX, et donc ça va créer une pression acheteuse sur le titre. Ça, c'était la première actualité du jour. Puis on a découvert cette nuit les résultats, en tout cas la prévision de résultats de Samsung pour le deuxième trimestre 2026, un bénéfice d'exploitation multiplié par 19. Et le titre qui a plongé jusqu'à moins 9% lors des échanges à Séoul cette nuit, qui recule à l'heure actuelle de près de 7%. Deux éléments qui me semblent faire une bonne introduction à la question que j'ai envie de vous poser. Tous les gérants ont-ils forcément de l'IA en portefeuille aujourd'hui, Laurent, quoi qu'il arrive ?
Alors, il y a beaucoup de gérants qui ont de l'IA, notamment ceux qui sont un peu benchmarkés, qui suivent l'indice, parce que dans les indices, il y a beaucoup d'IA, donc vous êtes obligé finalement d'en avoir. Quand vous n'êtes pas benchmarké ou vous avez une plus grande liberté, vous avez plus de choix. En l'occurrence, chez BDL Capital Management, dans nos fonds principaux comme BDL Rempart ou BDL Conviction, on n'a pas d'IA actuellement.
D'accord.
Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas eu, qu'on n'en aura jamais, mais actuellement, on n'a pas d'investissement lié à l'IA.
Comment on justifie le fait de ne pas investir sur les valeurs liées à l'IA dans le contexte qu'on connaît actuel ? Alors effectivement, je citais Samsung parce qu'il y a un certain nombre de doutes sur la soutenabilité de la demande, mais il y a quand même des chiffres d'affaires et de bénéfices qui sont assez impressionnants, des parcours boursiers qui sont assez impressionnants. Comment on justifie de rester à côté de l'IA à l'heure actuelle ?
Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de croissance et on est les premiers convaincus du potentiel de l'IA. On l'utilise chez BDL Capital Management. On utilise tous les modèles existants, ChatGPT, Gemini, Claude, etc. On n'a pas d'inquiétude sur le fait que ça va révolutionner les industries, mais vous savez que de temps en temps, la croissance industrielle ne rime pas forcément avec performance boursière. Un bon exemple récent, si vous regardez sur la défense, Rheinmetall a perdu 40% en 6 mois.
Bien sûr.
Et ça n'empêche pas les budgets défense d'être en croissance et d'avoir une visibilité sur 10 ans. Donc il faut faire attention entre les attentes du marché, qui est un peu un mécanisme, une machine anticipée, et ce qui se passe réellement. Et Samsung est un bon exemple, je pense, où, comme vous dites, les profits sont multipliés par 19.
Oui.
Pourtant, le titre baisse.
Trimestre record en plus. Donc globalement, il y avait tout pour plaire au marché.
Exactement. Donc les attentes sont très élevées. Donc ce qu'il faut regarder, je pense, ou en tout cas c'est comment nous on travaille, c'est dans une histoire de croissance comme celle-là, est-ce qu'il y a des sources de fragilité qui font qu'il faut être un peu vigilant. Et nous, on pense qu'il y a trois sources de fragilité dans l'histoire IA à ce stade. C'est premièrement, il y a une bascule sur le financement des hyperscalers. Donc, on parle de Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, notamment, et Oracle. Si vous regardez sur les 5 dernières années, c'était parfait pour l'actionnaire parce qu'il y avait une très forte croissance. Ces gens-là avaient beaucoup de cash flow et en plus rachetaient des actions.
Bien sûr.
Et maintenant, on bascule. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'investissements qu'ils n'ont plus de cash flow après investissement. Ils avaient encore 200 milliards l'année dernière en agrégé. Ils n'en ont plus du tout. Donc, ils diminuent leur rachat d'actions et ils font des augmentations de capital. On a vu Alphabet. Vous parliez de SpaceX. On devrait avoir Anthropic.
Bien sûr.
Donc, tout d'un coup, un afflux d'actions sur le marché parce qu'ils ont besoin de financement externe. Donc, il y a une bascule. L'histoire change sur le financement.
Mais avec quand même des promesses de résultats qui sont toujours là aujourd'hui. En tout cas, quand on écoute les dirigeants de ces entreprises-là.
Non, les promesses sont là et probablement que sur 2026, elles seront délivrées. Mais le Samsung est le bon exemple. Le marché s'est projeté beaucoup plus loin. Le deuxième sujet et qui revient sur les résultats futurs, c'est que il y a une bascule sur l'exécution. On passe des annonces de CapEx à l'exécution maintenant. Mm-hmm. Et si vous regardez, il y a de plus en plus de délais d'approvisionnement qui s'allongent. Si vous prenez par exemple le cas d'un transformateur qui est clé pour abaisser la tension électrique dans un data center, avant vous l'aviez en 12-18 mois, maintenant ça vous prend 3 ans. Un disjoncteur, c'était en 6 mois, maintenant c'est plus de 3 ans. Donc, il y a même des études qui vous disent que sur les data centers annoncés pour 2026 et 2027, plus de la moitié, vous n'auriez pas encore mis la première pierre sur le chantier.
D'accord.
Donc vous allez avoir un sujet d'exécution et c'est ce qu'on a vu dans la défense. Pourquoi Rheinmetall baisse de 40%? Pas parce que les budgets défense tout d'un coup se compriment, parce qu'on est rentré dans la phase d'exécution, la chaîne d'approvisionnement est tendue, les livraisons ne sont pas aussi rapides que prévu, les budgets sont un petit peu revus et tout ça finalement avec un marché qui a beaucoup d'attentes et derrière vous êtes déçus boursièrement, je parle. Et le troisième.
Et ça,
point,
pardon. Oui, alors je vous laisse finir, puis après.
Non. Et le troisième source de fragilité, selon nous, c'est la question qui va venir sur la rentabilité de tous ces investissements. Et là, la question est un peu insoluble. Quand vous regardez, enfin nous, on a fait des travaux là-dessus. Quand on essaie de regarder les investissements qui vont être faits par ces grands hyperscalers sur les cinq prochaines années, donc j'ai dit 2030, on pense qu'ils vont mettre sur la table 6 000 milliards de dollars. Mm-hmm. Pour vous donner une idée, 6 000 milliards de dollars, le dernier grand déploiement, c'était la fibre optique dans les années 2000. C'est un cycle qui a duré 7 ans, qui a coûté 800 milliards de dollars.
D'accord.
De dollars d'aujourd'hui.
Là, on parle quoi, au niveau européen, au niveau mondial?
Oui, mondial.
D'accord.
Donc, du coup, c'est même pas ce qu'ils vont dépenser juste en 2026. Donc, 6 000 milliards, c'est juste colossal. Et après, il faut les rentabiliser. Et donc, quand vous faites des hypothèses pour les rentabiliser, nous, on calcule qu'il faut trouver d'ici 2030 3 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Bien sûr. De vente, de revenus.
Oui, c'est ça. Exactement. Et quand vous regardez, vous prenez OpenAI, par exemple, et Anthropic, qui sont l'essentiel du marché actuellement, vous prenez leur chiffre d'affaires au mois de mai et vous le multipliez par 12, vous êtes grosso modo à 160 milliards. Donc, il vous manque 2940 milliards à trouver en moins de 5 ans.
D'accord.
Et donc, ça va être compliqué. 3 000 milliards, dites-vous bien que c'est l'intégralité du budget mondial de logiciels et de services informatiques. Donc c'est pas des petites sommes en fait. Donc le plus probable c'est que au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que la rentabilité n'est peut-être pas au rendez-vous, en tout cas à échéance 2030.
Et ça vaut pour le secteur au global. Il n'y a pas de sélectivité à avoir aujourd'hui. C'est des attentes de marché qui sont trop hautes, quels que soient les grands noms de la tech et de l'IA aujourd'hui.
Oui, sauf que on commence à assister à une déconnexion. Vous avez vu depuis le début de l'année, les hyperscalers sont peut-être moins recherchés que les valeurs de semi-conducteurs, etc. Et donc, la même annonce pourrait causer des performances différentes. C'est-à-dire que si demain les hyperscalers ou certains hyperscalers vous disent finalement j'ai fait mes investissements, je calme un petit peu le rythme d'investissement, je pense que ça sera positif pour eux parce que le marché commence à s'inquiéter de tous les investissements et ça sera très négatif pour la chaîne d'approvisionnement. Parce que tout d'un coup, on se dit, ah bah finalement, il y a peut-être un peu de surcapacité. Les prix qui ont été multipliés par 2, par 3, par 4, ça va peut-être un petit peu se calmer.
On n'aura malheureusement pas le temps de citer des valeurs, mais une dernière question, quand on n'investit pas dans l'IA, est-ce qu'on est contrariant jusqu'au bout? Et est-ce qu'on va, par exemple, vers les valeurs SaaS, dont on peut avoir des questionnements sur les valorisations à l'heure actuelle?
Alors, ça peut être une des stratégies. Et effectivement, c'est en partie ce qu'on a fait. C'est un segment dans lequel on n'était pas du tout. Et on a investi dans certaines entreprises dont on pense que le modèle économique est très protégé.
D'accord.
Et puis, il y a d'autres opportunités. L'intérêt pour l'IA crée des effets d'éviction majeurs sur d'autres secteurs qui n'ont jamais été aussi peu chers depuis 15 ou 20 ans. Et là, vous avez des opportunités très intéressantes. On a notamment augmenté nos investissements dans la consommation courante et dans la santé.
Encore faut-il que le marché ait envie demain d'y croire avec vous et de sortir de la seule thématique IA.
Exactement. Mais quand vous regardez les valorisations de ces activités-là, vous êtes touché des points bas, les mêmes points bas que vous aviez touchés en mars 2000, avant que le marché se retourne. Et quand le marché se retourne, dites-vous bien que le Nasdaq en un an a perdu 62% et certaines de ses valeurs ont pris 40%. Donc quand il y a une rotation sectorielle très forte, vous pouvez gagner de l'argent. Il y a des secteurs qui vont monter, même si d'autres baissent fortement.
Merci beaucoup, Laurent Chauderge, de nous avoir accompagnés dans Good Morning Market. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'investissement chez BDL Capital Management. On était dans la rubrique En Portefeuille. Et au lieu de regarder les valeurs qu'on a en portefeuille, on a regardé, pour une fois, celles que l'on assume de ne pas avoir en portefeuille. Merci beaucoup.